Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition de notre programme. Le pape et l'ensemble de la curie romaine ont commencé lundi les exercices spirituels de carême. Nous en parlerons tout de suite avant de nous enquérir de nouvelles de l'église Famille des Dieux qui est en Tanzanie, en République démocratique du Congo et en Côte d'Ivoire. L'actualité politique quant à elle nous conduira notamment en Libye, en République du Congo, Congo-Brazzaville et en Algérie. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Le pape et l'ensemble de la curie romaine ont commencé lundi les exercices spirituels de carême. Cette année, cette retraite est individuelle. La curie romaine ne pouvant se réunir comme les années antérieures à cause de la pandémie de COVID-19. En raison de la retraite, le pape ne tiendra donc pas d'audience générale mercredi prochain. Le Saint-Père a écrit lundi à Mgr Piotr Liberam, évêque de Płock, à l'occasion du 90e anniversaire de la première révélation de Jésus miséricordieux à Sainte Faustina Kowalska le 22 février 1931. François a rappelé quelques paroles du Seigneur Jésus consignées par la Sainte dans son journal. L'humanité ne connaîtra la paix que lorsqu'elle se tournera vers la source de ma miséricorde. Pour le Saint-Père, qui dit participer spirituellement à cette célébration, il convient de se tourner vers cette source et demander au Christ le don de la miséricorde. Ayant le courage de revenir à Jésus, de rencontrer son amour et sa miséricorde dans les sacrements, sentons sa proximité et sa tendresse, et alors nous serons nous aussi capables de miséricorde, de patience, de pardon et d'amour, a écrit le successeur de Pierre avant de donner sa bénédiction apostolique à l'évêque de Płock et à tous les participants aux célébrations du 90e anniversaire des apparitions de Jésus miséricordieux. Au chapitre de nomination, le Saint-Père a nommé membre de l'administration du patrimoine du siège apostolique le cardinal Peter Kodo Apia Tukson, préfet du dicastère pour le service du développement humain intégral, et le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la congrégation pour l'évangélisation des peuples. Par ailleurs, le pape a nommé membre du comité pontifical pour les sciences historiques le père Augustin Lafaille, archiviste de l'ordre de frères prêcheurs, la sœur Nicoletta Vittoria Spezzati, consultante historique de la Congrégation pour les causes des saints, le professeur Antal Molnar, directeur de l'Institut historique du Centre de recherche pour les études humanistes du Conseil national de la recherche à Budapest, en Hongrie. Le pape a également nommé le docteur Immacolata Inconciati au poste de secrétaire général de l'Université pontificale du Latran. En Tanzanie, les évêques exhortent les fidèles et l'ensemble de la communauté tanzanienne à se protéger contre le coronavirus. Il est important que chacun d'entre nous accepte la réalité concernant la COVID-19 et vive en suivant les indications fournies par les experts et par ceux qui savent comment endiguer la maladie. Tel est l'appel adressé par l'archevêque de Mbeya et président de la conférence épiscopale de Tanzanie, Mgr Gervas Nyaisonga. Nous avons la responsabilité d'éviter le danger de contamination et nous, évêques, devons lutter pour la santé des Tanzaniens et pour leur vie. Voilà pourquoi nous les exhortons à se protéger du virus. Tous devraient se protéger eux-mêmes et les autres de manière à pouvoir avoir une nation avec des personnes saines, a-t-il souligné. Mgr Nyaisonga a exhorté les fidèles à continuer à prendre des précautions suivant les instructions reçues, à conserver la distanciation interpersonnelle et à porter les masques de protection. Le fait que désormais nous connaissons les virus depuis 2020 induit certains à penser que la Tanzanie est une île qui ne peut être touchée. Nous devons tous être responsables envers nous-mêmes afin de protéger notamment et surtout les autres et d'avoir un pays sain, libre et prospère. Nous ne devons pas être esclaves de la peur, a remarqué le président de la conférence épiscopale tanzanienne. Prions et demandons à Dieu de nous épargner cette tragédie. Dieu est proche de nous et ne nous a pas retiré la responsabilité de protéger nos vies. En République démocratique du Congo, un nouveau complexe scolaire pour les élèves malentendants a ouvert ses portes il y a quelques jours dans le diocèse de Matadi. Construite avec le soutien financier de Caritas Linz Autriche, la structure fait partie de la Direction nationale de l'éducation spéciale et est rattachée à la paroisse Notre-Dame de Fatima. L'école a été inaugurée par Mgr Daniel Landou, évêque de Matadi, et vise à promouvoir la formation intégrale des enfants malentendants. Le nom Espoir, explique le portail du diocèse de Matadi, est destiné à souligner qu'aucun handicap physique ne doit être un obstacle à la croissance de chaque individu. Le projet s'inscrit dans le cadre des interventions du diocèse en faveur des plus pauvres, des défavorisés et des plus faibles et vise à offrir un environnement adapté aux élèves sourds et muets afin de leur permettre d'apprendre de manière spécifique. Toujours en République démocratique du Congo, le premier dimanche de carême est consacré à la prière et à la quête spéciale pour l'Université catholique du Congo, UCC. Selon le calendrier liturgique établi par la Conférence épiscopale nationale de ce pays. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant local.
Le premier dimanche du carême, c'est aussi la journée de prière et de quête spéciale pour l'Université catholique du Congo, UCC, selon le calendrier liturgique établi par la Conférence épiscopale. Dimanche 21 février, le président du conseil d'administration de l'Université catholique du Congo, Mgr Fulgence Muteba, évêque de Kilwa Kasenga et administrateur apostolique de Kamina, a lancé un appel pour une levée de fonds. Il explique au nom de la fondation UCC.
Je saisis cette occasion pour inviter les étudiants, le personnel, les anciens de notre alma mater et les personnes de bonne volonté à donner leur contribution à la fondation UCC. Cette fondation a été mise sur pied avec l'autorisation de la Conférence épiscopale nationale du Congo en vue de perpétuer et de soutenir la culture d'excellence qui caractérise cette université et de construire des infrastructures sur son nouveau site.
À l'Université catholique du Congo, les cours ont repris le 22 février, comme l'a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Les cours avaient été suspendus à cause de la pandémie du coronavirus. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Le secrétaire de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a, dans un communiqué publié le 18 février dernier, annoncé que le père Félix Koulibaly a été élu administrateur du diocèse de Katioula ce 18 février à l'issue d'un scrutin conformément aux dispositions canoniques. Le père Koulibaly, spécialiste en droit canonique, était jusque-là vicaire général et curé de la cathédrale Sainte-Jeanne d'Arc de Katioula. Il lui revient désormais la gestion du diocèse de Katioula en attendant la nomination par le pape d'un nouveau pasteur pour ce diocèse du nord de la Côte d'Ivoire. Le siège épiscopal de Katioula est devenu vacant depuis le 14 février, date de la prise de possession canonique du diocèse de Korogo par Mgr Ignace Bessi, précédemment évêque de Katioula. Complément d'information dans ce reportage de notre correspondant local.
Dans un entretien qu'il nous a accordé suite à cette élection, le nouvel administrateur du diocèse de Katioula dit accueillir cette nouvelle dans un état d'esprit positif qui est toutefois teinté d'appréhension. Cela représente pour lui un service d'église à assumer, un grand défi à relever, une lourde charge à accomplir, a-t-il affirmé. Le père Félix Koulibaly a par la suite salué le travail immense abattu par Mgr Ignace Bessi Dogbo durant 16 ans à la tête du diocèse de Katioula qui, animé d'une charité pastoral et ayant un sens aigu de l'Église communion autonome a tracé les sillons de l'autonomisation du diocèse de Catula. Sa mission, il entend l'inscrire, selon lui, toujours dans la continuité du sentier pastoral économique accompli par Mgr Ignace Bessidobo, archevêque métropolitain de Korogo, dans l'union et dans un esprit de communion pour relever ensemble les défis inhérents à cette Église particulière. Le bonheur d'un diocèse, c'est d'avoir un pasteur propre. Le père Félix Koulibaly en a profité pour exhorter le peuple de Dieu qui est à Catula à demeurer dans la prière afin que le maître de la vigne leur envoie un pasteur propre à sa vigne et qu'il le soutienne pour mener à bien cette transition. Notons que le diocèse de Catula vient compléter à 3 le nombre de diocèses vacants dans le pays après Odiné et Yamoussoukro. Cette église particulière compte à ce jour 57 prêtres pour 22 paroisses, 3 quasi-paroisses reparties sur une superficie de 32 832 km² et demeure l'un des plus vastes de la Côte d'Ivoire. Marcel Aristone Blé, Abidjan, Côte d'Ivoire pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
À la une de l'actualité sociopolitique africaine, la mort de l'ambassadeur italien en République démocratique du Congo. Le ministère italien des Affaires étrangères a confirmé lundi la mort de son ambassadeur Luca Antanasio qui voyageait avec un convoi des Nations Unies dans l'est du pays. Selon une source diplomatique à Kinshasa, le diplomate a été tué par balle. Il voyageait en voiture dans un convoi de la MONUSCO, la mission de casque bleu qui est présente en République démocratique du Congo depuis 20 ans. Luca Antanasio, âgé de 43 ans, était ambassadeur en République démocratique du Congo depuis octobre 2019, après être arrivé dans le pays 2 ans plus tôt en tant que chef de mission selon sa biographie officielle. Il était entré dans la carrière diplomatique fin 2003 après des études de commerce à l'université milanaise Luigi Bocconi. Il avait démarré à la direction des affaires économiques avant de travailler sur les questions africaines et la coopération internationale. Passons dans l'autre Congo, Congo-Brazzaville, où a débuté dimanche près de Pointe-Noire les travaux de construction d'une nouvelle raffinerie du brut congolais d'une capacité de 2,5 millions de tonnes par an financée par une firme chinoise. Dénommée Raffinerie Atlantique Pétrochimie, cette unité sera construite sur 240 hectares et doit officiellement ouvrir plus de 5000 emplois directs et indirects. Elle vise à diversifier et consolider le tissu industriel du pays qui dépend essentiellement du pétrole, sa première source d'exportation. Des milliers de manifestants ont défilé lundi à Alger et d'autres rassemblements ont eu lieu dans le pays pour le 2e anniversaire du Hirak, mouvement populaire qui tente de se relancer après 1 an d'interruption due à la crise sanitaire. Dans un autre registre, le président Abdelmadjid Tebboune a procédé dimanche à un remaniement partiel de son gouvernement à la veille du 2e anniversaire du mouvement de protection populaire du Hirak, a indiqué un communiqué de la présidence. Le premier ministre Abdelaziz Djerad, pourtant critiqué, reste à son poste ainsi que les détenteurs des ministères régaliens selon la liste publiée par la présidence de la République. Par ailleurs, le président Tebboune a dissous dimanche l'Assemblée populaire nationale, la chambre basse du Parlement, ouvrant la voie à des élections législatives anticipées dans les 6 mois selon la télévision nationale. M. Tebboune a signé un décret présidentiel portant dissolution de l'Assemblée populaire nationale dont le mandat devait expirer en 2022, a précisé la télévision. Au Niger, un agent de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, a été tué dimanche et 9 autres blessés dans l'attaque de leur véhicule par des éléments de Boko Haram dans la région de Difa, proche du Nigeria, ont annoncé lundi les autorités nigériennes. Un second tour de la présidentielle s'est tenu dimanche au Niger entre Mohamed Bazoum et Mahamane Ousmane. Ce sont des éléments de Boko Haram armés qui ont attaqué les véhicules transportant des présidents, des secrétaires généraux recrutés par la CENI ainsi que des délégués des 2 candidats à la présidentielle, a confirmé un élu local.
Radio Vatican, France et Afrique, Donatien Niembo.
Direction Nigeria, un groupe de 53 otages, dont 20 femmes et 9 enfants, récemment kidnappés dans le centre du Nigeria, ont été libérés dimanche par leurs ravisseurs, tandis qu'en restait sans nouvelles des 42 personnes enlevées mercredi dernier dans un lycée de Kagara, dans la même région. Aucune précision sur les conditions de ces libérations n'a été rapportée par les autorités, qui ont toujours affirmé qu'elles ne paieraient pas de rançon pour libérer les otages des bandits. Les 53 ex-otages ont subi un examen médical avant de retrouver leur famille. En revanche, les 42 personnes, dont 27 écoliers enlevés mercredi au lycée de Kagara, dans le même état du Niger, sont toujours portés disparus. Le ministre de l'Intérieur libyen, Fatih Bachaga, est sorti indemne dimanche d'une tentative d'assassinat près de Tripoli, selon son entourage, une attaque qui fait craindre une reprise de violence en plein effort pour une transition politique.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Notre programme se poursuit avec le magazine de la santé que nous présente Françoise Niamien.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Notre magazine sur la santé porte sur la présentation du plan stratégique de préparation et de riposte pour 2021 à la pandémie de COVID-19 par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Ce nouveau plan, selon le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, expose l'ensemble des mesures à prendre que de nombreux pays ont appliquées avec succès pour mettre fin à la transmission, protéger les personnes vulnérables et sauver des vies. Il s'appuie sur celui de l'année dernière et comporte 6 objectifs, à savoir mettre fin à la transmission, réduire l'exposition, contrer les informations fausses et la désinformation, protéger les personnes vulnérables, réduire le nombre de décès et de cas et parvenir plus vite à l'accès équitable à de nombreux outils, y compris des vaccins, des moyens de diagnostic et des traitements, a souligné le directeur général de l'OMS. La somme nécessaire pour atteindre ces objectifs, a-t-il indiqué, s'élève à 1,96 milliard de dollars, dont 1,2 milliard pour la composante OMS de l'accélérateur ACT. 643 millions de dollars seront consacrés à l'aide humanitaire dans les situations de fragilité, de conflit et de vulnérabilité. Le plan stratégique tient compte également de la nécessité d'intégrer pleinement la riposte à la COVID-19 dans la planification des programmes de santé et de développement. Le financement intégral du plan stratégique n'est pas seulement un investissement dans la riposte à la COVID-19, mais aussi un investissement dans la reprise mondiale et dans la construction de l'architecture permettant de prévenir les urgences sanitaires futures, d'en atténuer les conséquences et de s'y préparer, a encore indiqué Dr Adhanom Ghebreyesus. Il est également revenu sur le premier plan stratégique dont la mise en œuvre exigeait 1,7 milliard de dollars a suscité une réponse sans précédent. Avec le soutien des États membres et des donateurs, nous avons obtenu 1,58 milliard de dollars dont plus de 90% ont été alloués aux pays et aux régions, ce qui a permis de faire parvenir un financement vital aux personnes qui luttaient en première ligne contre la pandémie et de soutenir les activités scientifiques et techniques fondamentales de l'OMS, a fait savoir Dr Adhanom Ghebreyesus, indiquant que ces fonds ont également permis à l'OMS et à ses partenaires d'expédier des millions de tests et d'articles composant les équipements de protection individuelle et d'apporter un soutien pour les milliers de lits de soins intensifs dans le monde. Nous avons déployé 191 équipes médicales d'urgence, soutenu des études séro-épidémiologiques dans 58 pays, proposé 150 formations en ligne auxquelles 4,7 millions de personnes ont participé et fait bien plus encore. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter le plan stratégique de préparation et de riposte pour 2021, a également souligné le directeur général de l'OMS. évoquant la nouvelle déclaration axée sur l'équité en matière de vaccins signée par des groupes de soignants, des institutions internationales, des groupes religieux, des mouvements de jeunes, des instances sportives et des athlètes. L'OMS explique que la déclaration appelle plusieurs groupes à agir, appelle les dirigeants politiques à contribuer davantage au mécanisme COVAX et à partager les doses avec le mécanisme tout en déployant les vaccins au niveau national. Elle appelle les fabricants de vaccins à partager leur savoir-faire avec le groupement d'accès aux technologies contre la COVID-19, à fabriquer davantage de doses et à accroître considérablement l'offre mondiale de vaccins. Cette déclaration a encore indiqué Dr Adhanom Ghebreyesus appelle également les organismes de réglementation à accélérer les processus d'approbation de manière sûre et efficace. La déclaration appelle également les ministères de la Santé à collaborer avec l'OMS et d'autres intervenants pour investir dans leur système de soins de santé primaire et les préparer afin que des vaccins contre la COVID soient distribués aux soignants et à mettre au point des systèmes de données sur l'approvisionnement en vaccins et la distribution et l'utilisation des vaccins. La déclaration appelle par ailleurs tous les gouvernements à veiller à ce que les vaccins contre la COVID-19 soient distribués gratuitement sur les lieux de soins sans exposer ceux qui en ont besoin et tout d'abord les soignants à des difficultés financières.
Place à présent à Marie-Josée Moando Boisboileau pour la rubrique sur les médias.
Commençons notre rubrique sur les médias par la République démocratique du Congo où 6 journalistes congolais ont été condamnés à 3 ans de prison dans une affaire de harcèlement sexuel impliquant le gestionnaire de leur radio dans le nord-ouest du pays. L'organisation de défense de la presse, Journalistes en danger, indique que les 6 journalistes ont été condamnés mardi à 3 ans de prison par le tribunal de paix de Bumba dans la province de la Mongala. Les 6 journalistes travaillent pour la radio Bumba Lokole, une station locale, et étaient poursuivis par Ruffin Makombo, président du conseil de gestion de ce média, pour avoir initié et signé une pétition exigeant sa démission. Selon Journalistes en danger, plusieurs griefs sont retenus à charge de M. Makombo, notamment la mauvaise gestion de la radio et le harcèlement sexuel contre les journalistes femmes de ce média. Poursuivi par le même tribunal le même jour à Bumba, chef-lieu de la Mongala, et notre journaliste Eric Ngoundé, travaillant pour la radio Liberté d'Isala, une autre station locale, a été libérée pour absence d'infraction mardi, 48 heures après son arrestation et détention sur ordre de la gouverneure intérimaire de la province de Mongala, Clémentine Solé. Cette organisation partenaire de Reporters sans frontières a exprimé ses très vives inquiétudes sur la grave détérioration de la situation de la liberté de la presse dans cette province où des cas d'attaques, de menaces et d'arrestation des journalistes et des fermetures des médias se multiplient. 5 journalistes ont été interpellés dimanche en Birmanie d'après un média local au cours d'un rassemblement dans le nord du pays où les forces de l'ordre ont tiré sur des manifestants. Ces 5 journalistes couvrant une manifestation à Mihikinya dans le nord du pays ont été arrêtés. Les forces de l'ordre ont dispersé ce rassemblement en tirant sur les manifestants d'après une journaliste locale qui n'a pas pu préciser si les soldats avaient tiré à balles réelles ou avec des munitions en caoutchouc. La chaîne TV5 Monde a salué la libération vendredi soir de son correspondant en Algérie, Khaled Drareni, remis en liberté après 11 mois de détention parmi plusieurs dizaines de détenus d'opinion. Il était détenu et avait été condamné pour avoir fait son travail de journaliste. Nous sommes heureux qu'il puisse le reprendre plus vite s'il le souhaite, a déclaré Yves Bigot, directeur général de la chaîne, dans un communiqué publié samedi. Françoise Joly, directrice de l'information de TV5 Monde et membre active du comité de soutien à la libération de Khaled Draheni, a exprimé également son immense soulagement et la joie de toute la rédaction et fait valoir que Khaled Draheni, journaliste libre et indépendant, n'aurait jamais dû être emprisonné. La liberté de la presse est une condition pour une transformation positive de l'Algérie. Les grâces accordées par le président Tebboune vont dans le bon sens. Khaled Draheni va pouvoir reprendre son travail pour une information libre et fiable, a écrit Christophe Deloire sur Twitter. Devenu le symbole du combat pour la liberté de la presse en Algérie, M. Draheni a été libéré vendredi soir au lendemain de l'annonce d'une grâce présidentielle en faveur des dizaines de détenus d'opinion, a-t-on appris auprès de son avocat. Il a précisé qu'il s'agissait d'une mesure de liberté provisoire. Fondateur du site électronique Kasbah Tribune, il avait couvert le mouvement de contestation populaire Irak, notamment via ses comptes sur les réseaux sociaux, avant la suspension des manifestations à cause de la pandémie de COVID-19. Pendant son incarcération, des banderoles de soutien avaient été déployées dans plusieurs villes de France, dont Paris, pour réclamer sa libération.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Nous sommes à la fin de notre programme. Merci de l'avoir suivi en compagnie de Donatien Niembo. Le rendez-vous c'est demain, même heure, même fréquence, même radio.
Ma vie c'est le Christ et son évangile. Je veux être à lui, être son ami. Je lui donne ma vie, tout ce que je suis, car il m'a aimé et m'a racheté. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Comme un bon berger, il m'a tant cherché et enfin trouvé. Je suis comblé, je veux le louer, je veux l'acclamer, partout annoncer, il est la vérité. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh, quelle joie d'être toujours à toi. Ô Seigneur, accueille-moi, car tu es mon roi. Oh,